Good Morning Business, le grand débat.
Il est 8h37. Et on a commencé.
On a commencé.
Sylvia Di Pasquale, rédactrice chef de Cadre Emploi. Bienvenue sur ce plateau du Grand Débat. Guy Mamou, Mani, coprésident d'Open, Éric Delannoy, président fondateur de Tenzing Conseil. Merci à tous les trois d'être là. On va commencer par quoi? Par quoi voulez-vous commencer?
Moi, je veux bien commencer par LVMH. LVMH qui n'ira pas sur le plateau de Saclay. Alors, officiellement, ça n'a rien à voir avec la fronde des étudiants. C'est un choix de Bernard Arnault. Mais quand même, on n'y arrive pas en France à mettre les entreprises à côté des universités, à côté de Polytechnique. Éric Delannoy, ça vous inspire quoi?
Ça m'inspire des événements personnels que j'ai vécu, où nous, entreprises privées, on a voulu créer un diplôme universitaire pour aider les jeunes à trouver un emploi à la suite de master pour se réorienter, et qu'on a eu un barrage complet des universitaires, parce qu'une société privée qui s'occupe des étudiants, mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a forcément une intention commerciale derrière, parce que l'université est là pour donner des connaissances et n'est pas là pour mettre le pied à l'étrier des étudiants pour avoir un emploi. Ouais. Donc il y a beaucoup de potentats et en même temps on peut se dire que si jamais l'université ne servait qu'à ça, on n'aurait plus d'humanité, on n'aurait plus ce qui fait aussi la beauté de la France, c'est-à-dire cette capacité à avancer sur des sujets que ce soit de la philosophie. Nous, on embauche des philosophes.
Vous avez pris ça avec philosophie d'ailleurs,
on n'a pas le choix. Par contre, c'est très très agaçant de voir qu'il y a une espèce d'étanchéité complète entre le monde du travail et le monde de l'université. Oh, et je le dis avec force parce que on l'a vécu et c'est vraiment des situations très difficiles.
Sylvia Di Pasquale.
Faut pas exagérer quand même, une étanchéité complète.
Je vous parle d'une expérience vécue, malheureusement.
Ouais, oui, je comprends.
Il y a des progrès.
Oui, il y a des progrès depuis 25 ans qu'on observe. C'est au début, on disait les entreprises qui rentrent dans les universités, c'est le loup dans la bergerie. Mmh. Les profs n'en voulaient pas, les élèves n'en voulaient pas, c'est comme ça. Aujourd'hui, ça a un peu évolué. Dans les masters, les entreprises sont extrêmement présentes. Mais là, en fait, il faut aussi parler du fait que l'IX, c'est pas une école comme une autre.
C'est vrai.
C'est quand même une école qui relève du ministère de la Défense, qui doit former. D'ailleurs, on peut en discuter. Normalement, ça doit former des hauts fonctionnaires.
Ça a formé Bernard Arnault, qui est devenu l'homme le plus riche du monde
et
PDG de la première entreprise du luxe mondial.
Oui, mais
comme bilan, non?
Au départ, l'IX, ça forme des hauts fonctionnaires. Ça ne forme pas forcément des cadres du privé. Et de plus en plus, au fil du temps, c'est devenu effectivement une excellente formation pour les cadres du privé. Et donc là, ce qu'on entend de la part des élèves, c'est quand même super intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un retour de balancier. Et oh, on ne forme pas que des cadres du privé, on veut aussi une séparation de l'Église et de l'État, entre guillemets, enfin, une séparation entre le privé et le public.
Ça vous semble plutôt sain comme bébole, quoi, de la part des étudiants.
Je ne sais pas si c'est sain concernant LVMH, parce que je n'ai pas étudié effectivement le dossier LVMH, mais 43% des étudiants étaient contre au moment du vote. Bon, ce n'était pas une majorité, mais 43%, ce n'est pas rien non plus.
Guy Mamoumani, vous qui avez travaillé sur les questions de formation, vous en pensez quoi?
Moi, je suis atterré. Vraiment, atterré, parce que en fait, c'est l'héritage d'une sorte de lutte des classes entre le public, le privé, les universités. Les entreprises, c'est absurde, c'est dépassé. Heureusement, tu as raison de dire quand même qu'il y a eu des évolutions. On voit beaucoup de chair actuellement dans certaines universités. Moi, je fais partie de différents conseils d'orientation, d'administration, d'écoles d'ingénieurs, en particulier dans l'informatique, évidemment. Et franchement, cette question ne se pose plus. Mmh. Elle ne se pose plus. C'est-à-dire que, et tu l'as très bien dit, les universités sont quand même aussi là pour former des professionnels. On n'est pas à l'école primaire ou au lycée pour dire qu'on est dans la culture, l'éducation, etc. On est aussi en priorité pour former des professionnels. Par conséquent, le rapprochement avec les entreprises est absolument vital. Et je crois que c'est tout à fait regrettable qu'on refuse à LVMH, comme à d'autres, de s'installer en proximité. Il faut rappeler quand même que ce n'était pas dans l'école, c'était en proximité
avec un investissement de 100 millions d'euros. Éric Delannoy, quand même, est-ce que ça en dit pas beaucoup, toujours, sur notre société, la société française, et ses réticences à l'égard de l'entreprise, de l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est pas une particularité française?
C'est absolument une particularité française, et c'est bien dommage. Il n'y a qu'à voir la manière dont sont enseignées l'économie avant l'université. Enfin, ouvrez un livret d'économie de terminale, c'est atterrant de voir...
C'est l'économie vue par les marxistes.
C'est absolument, il y a ça. Il y a ensuite le fait qu'il y a beaucoup de potentats au sein de l'université. Enfin, je suis désolé, mais aujourd'hui, les personnes qui s'occupent de l'orientation des élèves, c'est à la fois des gens qui sont extrêmement dévoués, mais par exemple, je ne citerai pas pas université, on est en général sur 3 personnes pour 10 000 étudiants. Ouais. Hein, donc on n'est vraiment pas au rendez-vous de l'université préparant les jeunes à pouvoir ensuite avoir un emploi. Ouais. Donc cette séparation, elle est dommage parce qu'on se prive de financement. On parlait de chaires tout à l'heure. Ben, ouais, les chaires, nous, on essaie de rentrer dans les chaires, mais en fait, les chaires sont des modalités de financement avec des tickets d'entrée qui sont juste insupportables. On n'est pas dans l'interpénétration de l'entreprise avec
c'est l'université. Trop cher.
Mais bien sûr, enfin, je veux dire, les tickets d'entrée des chaires, c'est entre 50 000 et 100 000 euros. Quand vous êtes une PME qui produit beaucoup de contenu, mais qui n'a pas les moyens de mettre 100 000 euros, vous restez à la porte.
Oui, il y a d'autres moyens. Pardon, il y a d'autres moyens de coopérer avec les universités et les écoles, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a effectivement les chaires qui ont un ticket d'entrée assez élevé, mais il y a aussi les partenariats pédagogiques. C'est-à-dire on peut envoyer des chargés de cours, des profs, et d'ailleurs, les écoles sont très, très demandeuses de ça. Mmh. Donc, l'interpénétration, comme on disait tout à l'heure, du monde de l'entreprise dans le monde des grandes écoles et universités a vachement progressé. Enfin, encore une fois, moi, je ne dresse pas un tableau aussi noir que ça. Essayons de creuser un peu sur les critères qu'ont donné les étudiants de Polytechnique. Hein. Pourquoi est-ce qu'ils veulent
greenwashing,
pas...
il disait.
Ouais, c'est ça, c'est les arguments écologiques. Alors, peut-être que c'est complètement bidon, peut-être qu'ils sont complètement à côté de la plaque, peut-être qu'ils n'ont rien compris aux intentions d'LVMH.
Pas question de s'acheter une respectabilité.
Factice, voilà. Et donc, c'est vrai que ça fait écho au discours qu'ils faisaient déjà au moment de la remise des diplômes, hein, quand ouais, on a vu qu'il y avait un certain
fort,
nombre d'étudiants. Voilà. Mais écoutons ces arguments-là. Alors, qui sont encore une fois peut-être complètement à côté de la plaque parce qu'on n'a pas de détails sur les projets LVMH
je veux dire franchement que LVMH ait besoin de ça pour se faire une image, c'est une des plus belles boîtes du monde, franchement c'est absolument ridicule. Non, je pense que il y a profondément une opposition à l'ouverture vers le privé de une certaine catégorie d'étudiants.
Oui.
Et d'ailleurs, ce qui me surprend, ça aurait été une université, ça aurait été plus attendu. Ce qui me surprend, c'est que ça soit une école d'ingénieurs. Or, moi, je vous dis, je vois beaucoup d'écoles d'ingénieurs, et il n'y a pas ce sujet. Et d'ailleurs, je rappellerai que, en sortie d'école d'ingénieurs, on voit le peu de chômage qu'il y a, comparé aux sorties d'université.
Pour le coup, il y a quand même un phénomène générationnel. Il y a une génération, les 20 ans, qui veulent donner du sens à leur vie. Peut-être ça vous fait rire.
Oui, ça fait rire. Enfin.
Eric, mais c'est vrai. On a tous des enfants ou des enfants d'amis qui ont cet âge-là. Ils sont ingénieurs, ils veulent changer le monde. Tout à l'heure, on était avec le président de Pascal sur le quantique. C'est génial. Sauf qu'ils veulent aussi, pardon, ils nous disaient que le quantique consommait moins d'énergie. Ils veulent aussi donner un sens à ce qu'ils font. Et c'est peut-être ça qu'ont dit les étudiants de Polytechnique. Vous êtes sceptiques tous les deux.
Non, moi je suis tout à fait d'accord avec cette recherche de sens. D'ailleurs, par exemple, chez Open, on a développé notre raison d'être, nos valeurs, et je crois que c'est absolument impératif. Vous avez eu la Maïf juste avant, qui est aussi exemplaire sur ces sujets-là. Mais là, c'est pas une question de sens, de dire on ne veut pas la présence d'une entreprise
à côté de chez nous. Mais est-ce que c'est parce que c'est LVMH, ou si c'était une autre entreprise, ça serait pareil? Parce que là, c'est ciblé, c'est Total, c'est LVMH. Ouais. Si c'était la Maïf, ils seraient peut-être d'accord.
C'est le symbole du très riche, quoi.
Ils sont perméables, là aussi, des discours qu'on entend partout. Quand vous voyez les rapports de l'Oxfam qui revient une énième fois sur les hommes les plus riches du monde, le partage de la richesse, etc., qui font une confusion entre les liquidités et les actifs, qui ne considèrent pas que LVMH, certes, c'est l'homme le plus riche du monde, mais il faut faire quoi? Il faut qu'on privatise, il faut qu'on revende les actifs,
qu'on nationalise.
C'est une bonne nouvelle de se dire qu'au moins à l'X, c'est représentatif de tout, de l'ensemble de la société française.
Oui, alors de moins en moins, quand même.
Nous,
on a fait des études sur le sujet.
C'est pour des gauchistes, c'est ça que vous voulez dire?
Ça reflète absolument tous les courants.
Oui, enfin bon. Donc, moi, je suis sceptique sur le sens, même si je comprends qu'il y a, sur les classes élevées, c'est un marqueur social, la recherche de sens. Hein. Quelqu'un qui cherche du boulot, il faut d'abord un boulot avant du sens. Ça, c'est quand même un point très important. Sur la recherche de sens, il faut être très clair, sur le marché, ça vaut 1000 euros par an. Hein. Donc, nous, on recrute des jeunes sur une entreprise à mission, très engagée, avec une raison d'être
1000 euros par an, ça veut dire quoi?
Mais ça veut dire qu'une entreprise qui paye 1000 euros de plus des jeunes surdiplômés et qui n'ont pas beaucoup de sens.
Elle n'est pas obligée de faire du sens.
Non.
Ça s'achète. La conscience s'achète. 1000 euros par an, la conscience d'un jeune. Bravo.
Mais à part une frange de militants,
ça marche.
Ça marche beaucoup. Regardez d'ailleurs les ventes d'iPhone, la manière dont. Enfin, il y a beaucoup d'injonctions contradictoires dans ces
sujets. Ils sont jeunes, ils ont des idéaux.
Oui, c'est ça, oui, voilà.
Ah, c'est ce que nous disait tout à l'heure Nicolas Dose. Si à 20 ans, t'es pas de gauche, c'est que t'as pas de cœur. Et si à 40 ans, t'es encore de gauche, c'est que t'as pas de cerveau, quoi.
Bon, enfin, la recherche de valeur n'est pas forcément d'être de gauche ou de droite.
Non. C'est la gauche élargie, là. C'est effectivement quête de sens quand on est jeune.
Bon, on va laisser ce sujet LVMH là où il est.
Qui passionne quand même.
Ou c'est-à-dire pas à Saclay. Pour passer au sujet des retraites, quand même, hier, le texte est arrivé en Conseil des ministres. Alors, deux infos, en gros, à retenir. La question de l'index senior et la question des femmes. Peut-être, Sylvia, sur l'index senior, on tape un peu du poing sur la table, mais il n'y aura pas d'obligation complètement pour les entreprises.
Pas de sanction.
Et donc, du coup, ça nous rappelle des mauvais souvenirs, hein, l'index parité homme-femme, qui a quand même eu beaucoup de mal à s'imposer, parce que beaucoup d'entreprises trichaient, tout simplement. C'était facile de tricher.
Tout le monde a gagné.
Et bien oui, il n'y avait pas de sanction.
Il n'y a pas de sanction, donc on peut plus ce qu'on veut. Quoi.
Et puis en plus, c'était de l'autodéclaration de la part des entreprises. Donc moi, j'ai plein des RH qui m'ont raconté des histoires, je ne vous les confierai pas ici. Mais...
Ah si, allez-y.
Si, de tambouille, de tambouille.
Voilà, on le sait tous, c'était facile de tambouiller. Donc l'index senior sans sanction,
ça ne sert à rien. Mais c'est indiqué en raison de dire que ça ne sert à rien.
En fait, il y a aussi une autre façon de voir les choses, c'est-à-dire qu'on pourrait mettre des bonus. Hein, plutôt que de toujours taper sur les entreprises, ce serait intéressant aussi de mettre
Les fameux bonus de baisse des charges, par exemple patronales, pour les entreprises qui ont un taux d'indice senior élevé.
Et ça permettrait de parler non pas aux DRH, mais aux DAF.
Mais bien sûr.
Parce que ceux-là sont très très puissants dans les entreprises et décident si justement on doit garder un senior ou d'embaucher deux jeunes.
Vous faites tous les deux des mous, alors je ne sais pas lequel commencer. Eric
L'index senior, il y a l'index homme-femme, il y a l'index diversité, il y a l'index senior. En fait, on va gérer, chef d'entreprise, on va passer notre temps à gérer des index. Ça va être formidable. Moi, je rappelle quand même que ce n'est pas le thermomètre qui permet de faire baisser la fièvre. D'accord. Donc ça ne permet juste que de mesurer et qu'à un moment il faut mettre en place des vraies mesures sur les seniors. L'index senior, c'est comment je vais mesurer que les mesures qu'on n'a pas encore prises vont se mettre en place. Hein, il existe des solutions pour les entreprises pour faire en sorte que les seniors fonctionnent bien. C'est-à-dire faire la promotion d'un travail à temps partiel et d'une retraite à temps partiel. Enfin ça existe déjà et ça sera promu par la réforme des retraites. Faire en sorte d'avoir avant la réforme sur les cotisations sociales sur lequel Bercy est très sceptique, faire en sorte de changer de fonction pour les seniors. Au sein de l'entreprise, etc. Il y a des entreprises qui font ça très bien. Maintenant, mettre un index senior homogène sur l'ensemble des secteurs, c'est évident que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas.
Guillaume Omani.
Ah ben, je ne suis pas d'accord du tout.
Avec lequel?
Avec ce qu'il dit, c'est-à-dire que moi, je suis un ardent défenseur de l'index. Ah. D'ailleurs, je ne fais pas une présentation d'Open sans dire que notre index est de 94. Pas du tout.
Vous l'avez déjà en interne?
Non, l'index... Homme-femme. Égalité salariale homme-femme, de 94, pour la troisième année consécutive. Si ça avait été tambouillé, les autres feraient mieux. Or, c'est une des meilleures notes de la profession. Et je crois que c'est une question d'image et d'attractivité. Nous qui avons un seul problème dans notre métier, ce sont les ressources. Ouais. Eh ben, on est très fiers de mettre en avant cet index. Et je trouve que faire un index pour les seniors, c'est aussi une très bonne idée. À part que...
Bah vous n'avez pas de senior dans la tech.
Alors, voilà. Dans la tech, on a un problème. On a un problème de femmes, ce qui est exact déjà, mais on a aussi un problème de senior. Donc, il faut un peu affiner cet index, quoi, hein, ne pas comparer une société qui fait un métier comme le parfum et une société qui est dans la tech, par exemple. Hein. Donc, il faut absolument que ça soit affiné. Mais en revanche, je pense... D'abord, je ne sais pas de quel index diversité tu parles, parce que je ne crois
Elisabeth
pas qu'il
existe. Elisabeth Moreno, lors du dernier quinquennat,
fait un index diversité. Mais il n'a pas été mis en œuvre.
Hein, il n'a malheureusement pas été mis en œuvre, parce que le calendrier n'est pas bon, mais il existe.
D'accord, moi, j'en ai jamais entendu parler. Hein, et d'ailleurs, je serais très heureux qu'on fasse un index diversité chez Open, d'ailleurs. Très heureux.
Non, mais on va arriver avec des exceptions.
Un patron qui veut des index, un patron qui n'en veut pas, vous voyez.
Moi, je trouve... Alors, en revanche, les sanctions financières, tout ça, bon, c'est quand même très compliqué. Là, je ne suis pas d'accord du tout. C'est une question d'image, et je crois qu'il faut mettre en avant positivement les entreprises qui respectent l'égalité salariale, qui respectent le recrutement des seniors.
Alors, autre information sur la réforme des retraites, il y a eu cette étude d'impact qui est publiée hier, qui accompagne le projet de loi, dans laquelle on apprend que ça va changer beaucoup plus pour les femmes que pour les hommes. Alors, pour les femmes, c'est à double tranchant. D'un côté, elles vont devoir travailler plus, 7 mois de plus en moyenne contre 5 mois pour les hommes, en raison de plein de raisons. Et en revanche, elles seront payées davantage. Sylvia Di Pasquale, c'est une bonne ou une mauvaise réforme pour les femmes, du coup ?
Ah bah, j'aimerais bien pouvoir répondre à votre question. c'est assez complexe. Mais ce que je me dis, en fait, c'est La réforme des retraites ne peut pas réparer toutes les injustices qu'on entend depuis toujours, hein, les injustices qui se sont passées avant. Et moi, je sens quand même que pour être une entreprise vertueuse, il va falloir commencer quand même à réparer, notamment ces injustices envers les femmes, ces injustices en matière de carrière. Parce qu'on le sait, quand une femme prend un congé de maternité, ou bien quand une femme... Enfin, on sait aussi que les femmes sont beaucoup plus en avant, encore aujourd'hui, sur la gestion des tâches ménagères, sur la charge mentale, etc. Ce qui fait qu'elles font des carrières beaucoup plus hachées, beaucoup plus heurtées. Et donc, on le voit bien dans les conseils d'administration, ou même sur les plateaux télé, il n'y a pas forcément toujours des femmes, parce qu'elles ne se rendent pas disponibles, parce que... Voilà. Donc, tout ça, en fait, c'est effectivement...
Mais comment on fait, Sylvia? Franchement, comment on fait?
En fait, plus incitatif dans les entreprises. Il faut changer de logiciel, on l'a déjà dit aussi, mais changer de culture par rapport à ces personnes qui, en fait... Souvent, les chefs d'entreprise disent on ne veut pas de quotas, on ne veut pas d'index, on ne veut pas tout ça. Mais n'empêche que ça fait progresser. Les quotas ont fait progresser, notamment les femmes qui sont arrivées dans les conseils d'administration. Je ne peux pas défendre une école ou une autre, mais... On observe que les progrès sont faits, enfin sont à prendre bien en amont. Et cette réforme des retraites qui ont un impact sur les femmes, finalement, on se rend compte que c'est en anticipant qu'on va pouvoir faire changer les choses.
Guillaume Moumani.
Bon, alors je bois du café avec Sylvia parce que je partage tout à fait tout ce que tu as dit, évidemment. Bon, alors sur la réforme des retraites, c'est tellement complexe. Franchement, c'est très difficile de donner un avis sur le fait qu'elle travaille plus, qu'elle gagne mieux, etc. Mais en revanche, où je suis vraiment complètement d'accord, c'est que c'est beaucoup plus en amont sur toute la carrière, l'égalité salariale, le fait qu'elle travaille en majorité à temps partiel, c'est que la visibilité des femmes est à revoir. Vous savez que je suis un des cofondateurs du mouvement Jamais sans elle.
Vous ne venez pas sur les plateaux télé s'il n'y a pas de femmes.
Sur les plateaux télé, sur les tables rondes, etc. Et on fait changer quand même les choses là-dessus. Donc je crois que ce que vient de dire Sylvia est vraiment important par rapport à ce problème technique, celui des retraites.
Éric Delannoy.
Enfin, je suis également en face sur le fait que la réforme des retraites, de toute façon, va changer des choses. Enfin, on parle de 7 mois, on ne parle pas non plus de 3 ans, 4 ans. Par rapport, effectivement, à
7 mois, c'est une moyenne.
Oui, d'accord, mais par rapport à ces inégalités criantes, majeures et inacceptables qui sont le fruit de l'histoire, je veux dire, c'est quand même pas. Enfin, on nous parle d'une réforme injuste, d'une réforme brutale, mais objectivement, si on reprend l'ensemble des mesures, les arguments sont quand même très très faibles pour montrer que c'est brutal et injuste quand même, parce que la pénibilité, ça s'améliore. Même les carrières hachées, il y a des améliorations sur des trimestres qui sont donnés, notamment sur les périodes les compensations qui sont données. Donc, si on fait part cette réforme des retraites, on renonce aussi à des mesures de justice sociale.
Juste pour bien expliquer pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent, pour les femmes, pourquoi ça les impacte davantage? Parce que souvent une partie d'entre elles à 62 ans avaient les trimestres nécessaires parce qu'elles ont bénéficié notamment des 8 trimestres supplémentaires pour avoir eu les enfants. Or, du coup, à 62 ans, on lui dit non, vous pouvez plus partir, il faut attendre 64. Et c'est là que du coup, elles devront travailler plus longtemps alors qu'elles pouvaient aujourd'hui partir à 62 ans avec tous leurs
trimestres. Ça dépend des métiers. Ouais. N'oublions pas qu'il y a des métiers qui prennent en compte la pénibilité où ce ne sera pas le cas. Ouais. 40% des personnes ne seront pas concernées par ce report de l'âge légal.
Merci beaucoup à tous les trois d'être venus débattre avec nous ce matin.